Tout de suite, on repart donc à la découverte des artistes avec toi Hubert.
Avec Mama Rosin qui était en scène, qui a enflammé la scène du côté court. Mama Rosin, ils sont là, en tout cas le guitariste et l'accordéoniste. Je propose de tout de suite rentrer dans le sujet avec un morceau qui s'appelle Move Your Popo et puis on les retrouve. Ça se coupe comme ça. Bon, ben voilà, on est sur Radio Speranza. Ils m'ont coupé abruptement. Alors, je sais pas si c'est comme ça.
Oui, parce qu'à la fin, on disait des trucs qu'il fallait pas laisser sur un disque. Tu vois.
Il y avait pas même de mettre le bip.
Ouais, non, justement, même pas le bip. Alors, on coupe. C'est plus radical. C'est...
Voilà, voilà, voilà. Alors, donc, Mama Rosin est avec nous.
On peut te couper tout de suite. En fait, on dit Mama Rosine. mais on t'en veut pas du tout.
Alors c'est vrai qu'il y a eu une grande polémique.
Il y a un débat mondial.
Un grand débat, voilà, à Radio Esperanza. Alors pour finir, qu'est-ce qu'on dit? Mama Rosine, pourquoi?
Mama Rosine, parce que en fait, c'est comme ça que nous on l'imaginait au départ. Puis au moment où on a décidé de choisir comment on l'écrivait, on s'est dit on met pas le E. En se disant on prononce à l'anglaise. Et en fait, on tourne beaucoup en Angleterre. Et les Anglais, ils pensent nous faire plaisir en disant Mama Rosine. Parce qu'ils se disent, ah, c'est, tu vois, faut prononcer raté, à la française. Ouais. Et en fait, il n'y a personne qui prononce juste, ni les francophones, ni les anglophones. On est tout déprimés, alors on n'arrête pas de reprendre tout le monde, mais donc c'est bien Mama Rosine.
D'accord, ok, bon, bah, on le sait pour les prochaines fois. Et je passerai le message à tous les autres de la radio. Ok, alors on vient d'entendre Move You Popo, qui apparemment est un morceau fondateur.
Un morceau très controversé dans la discographie de Mama Rosine, pour avoir été considéré comme une faute de goût par beaucoup de journalistes, parce qu'on l'a mis au milieu d'un disque qui est relativement, qui sonne propre. Ouais. Qui est assez, ouais, non, qui est pas calme mais qui sonne vachement propre. Puis celui-là, c'est, on l'a enregistré dans une des premières répètes du groupe, vraiment avec trois bouts de ficelle, et en fait ouais, et en même temps il capte une espèce de d'urgence, de d'énergie, de spontanéité qui est hyper bonne à prendre. Et puis c'était vraiment juste de choisir, enfin de la part du label qui nous avait sorti ce disque, de choisir ce morceau à inclure dans ce disque, en fait.
Ouais.
Et on l'écoute jamais, donc ça nous a vraiment fait plaisir de le réécouter, des bons souvenirs.
Excellent. Mais ça va nous permettre aussi de parler du début du groupe. Quelle idée vous avez eue? Parce que ces deux mondes, en tout cas en Belgique, en Suisse, je ne sais pas comment ça se passe, mais en Belgique, le milieu du folk et le milieu du rock'n'roll incendiaire comme vous faites, alors ils ne se rencontrent pas, s'ils se rencontrent, et ils ne se parlent pas. Alors, quelle idée, qu'est-ce qui vous a pris de mélanger ça?
Ben, c'est un simple mouvement où tu commences à jouer avec une guitare sèche, un jour tu te branches.
Ouais.
On aimait bien la musique folk, on aimait bien le rock'n'roll, et puis pour nous ça allait de soi que c'était la même chose.
Ouais.
Et finalement la limite elle est fine, parce qu'en vieux morceau de folk, tu prends un morceau de folk des années 30, les mecs ils sont pour la plupart du temps alcooliques dans le Texas, ils jouent avec des banjos, des violons. Et ça déchire vraiment. Donc pour nous, c'est totalement rock'n'roll.
Ouais.
Donc finalement, la scène folk, la scène rock'n'roll, elles sont intimement liées. Puis pour nous, ce simple constat a fait que de fil en aiguille, on s'est branché, alors qu'on jouait une musique plutôt folk, qu'on est devenu une espèce de groupe plutôt rock'n'roll, mais qui jouait un peu sur des traditions folk, on sait plus très bien, plus personne ne sait très bien.
Commencer par du folk et terminer avec John Spencer, là, c'est quand même un fameux parcours.
Bah,
hein.
Je crois que ça rassure tout. Tu vois, en général, ça rassure de catégoriser, de mettre dans des boîtes les choses pour avoir prise sur le monde dans lequel on vit, mais c'est vrai que finalement, je sais pas, découvrir un peu la musique et son histoire, c'est se rendre compte qu'il y a tout est lié, tu vois, toutes les portes sont ouvertes les unes envers les autres, puis en fait, non, on s'est jamais posé de questions. C'est pour
clair.
Nous, du calypso à, je sais pas, au rockabilly, tu peux toujours trouver un lien, quoi. Donc, finir avec John Spencer, non, alors c'est pas une suite logique, mais je dirais que c'est une suite, pour nous, peut-être qu'il y a eu une espèce de parcours qui allait naturellement vers ça.
Ouais.
Et la grande fierté par rapport à ça, c'est que on n'a pas été le chercher, c'est lui qui est venu nous chercher.
Ah ouais. Donc, il vous avait entendu quelque part
Il nous avait entendu parce que le projet parallèle génial de John Spencer, il s'appelle Heavy Trash.
Ouais.
Il fait ça avec son copain Matt Vertare. Puis en fait,
plutôt rockabilly.
Ouais, c'est rockabilly super bien torché avec un second degré génial, ils le font super bien. Et en fait, donc on a le même tourneur pour l'Europe. Et en fait, le gars, John, il est assez curieux. D'écouter ce qui se fait. Donc le mec il lui dit bon bah tiens, je te file les disques que je fais tourner, des groupes que je fais tourner en ce moment. Puis il est tombé sur un de nos vieux disques, et il a, en général il disait, nos tourneurs disaient ouais, bon il répond jamais mais il écoute, il est assez critique. Puis en fait pour notre disque, apparemment on a eu du bol, il a répondu genre dans les heures qui suivaient, c'est quoi ce groupe, je l'ai vu en première partie de la prochaine tournée du Blues Explosion. Et on s'est retrouvé comme ça, on a fait 4 dates avec eux, et puis à la fin de la tournée John nous a proposé de nous produire le prochain disque. Ça tombait bien parce qu'on cherchait un producteur, donc un mec extérieur qui viendrait nous donner des nouvelles idées.
Ça
a donné ça.
Et pour la tournée avec John Spencer, vous avez un peu électrifié ça ou vous avez joué comme vous faites d'habitude?
Bon, on était déjà
le public devait être un peu surpris, j'imagine.
Bah, en fait, on était déjà le Mama Rosine D'aujourd'hui, il n'y avait pas le disque avec John Spencer, mais disons que sur scène, je pense qu'on était déjà capable de passer d'un moment super calme, un morceau qui tabasse bien. Ouais. Et je pense que John Spencer l'avait senti, parce que c'est, enfin, le son du nouveau disque Bye Bye Bayou produit par lui, c'est clair qu'il déchire, il est super rock, mais il y a ce germe là dans les disques d'avant, puis surtout sur scène, on l'avait déjà. Donc ouais. C'est vrai que finalement, c'est, je crois qu'on s'en est assez bien sorti face au public.
Écoute, alors moi, je dois être me faire mes excuses toutes penaudes. J'ai dû faire l'interview de Soul Jazz Orchestra et j'ai vu donc le premier quart d'heure de votre concert. Est-ce que les trois quarts d'heure qui ont suivi, ça a monté, les gens sont venus, ça...
Moi, ouais, j'ai pas eu l'impression que le premier quart d'heure était différent du reste. Quand on est monté sur scène, décontracté, on savait qu'il y avait du monde qui arrivait parce qu'il y avait l'autre concert d'avant qui venait de finir. Enfin, c'est comme ça les festivals.
Ouais, quoi. Ouais.
De toute façon,
ouais.
T'es pas dans une situation club où t'as des gens qui sont là à une première partie, tout le monde fonctionne comme s'ils allaient voir un concert. Ouais. Là, ils circulent, ils voient, ça leur plaît, ils se cassent, ils reviennent. Ouais. Voilà, les gens sont arrivés au fur et à mesure et puis c'était de plus en plus cool. On a fini dans le public d'ailleurs avec des maracas. Ah à ouais. Faire les cons avec les gens là, c'était cool.
Ah, c'est chouette, ouais. C'est vrai que quand je suis arrivé 2-3 minutes avant que ça commence, il n'y avait personne. Vous n'étiez pas attendu, vous n'êtes pas connu, vous n'étiez pas attendu. Mais les gens, en entendant les premières notes.
On nous avait prévenu, on n'avait pas trop peur. On nous a dit, il y a l'autre concert qui finit, le temps que les gens se déplacent d'une scène à l'autre, etc. Puis en fait, ouais. Ça s'est lentement rempli jusqu'à être plein.
Ouais.
Et puis nous, on a lentement chauffé jusqu'à être brûlant.
Ouais, c'est aussi difficile de jouer. Enfin, dans les festivals, c'est super, t'as du monde, puis il y a plein de mauvais côtés. Mais les côtés qu'il faut assumer en été, puis c'est que d'un coup, tu joues à 5h du soir.
Ouais.
5h30, là, c'était quelle heure ce soir? 6h30. Et on n'est pas habitué. Déjà, il fait jour, donc tu vois la gueule d'absolument tout le monde qui est devant toi. Enfin, c'est assez différent. Ouais. Les gens, il faut qu'ils se rendent compte de ça. C'est qu'en concert, en festival, c'est pas le même que le concert dans un club. Il y a des groupes qui sont calibrés festival, donc ils sont là, qui savent faire de l'entertainment. Et Esperanza, comment vas-tu? Des choses comme ça qu'on n'est pas forcément habitué à faire.
Ouais. C'est plus intimidant de jouer devant, quand on voit la tête.
Non, c'est pas forcément. Ça, c'est que nous on est un groupe qui aime bien jouer à partir de 10h du soir, quoi.
Ouais,
c'est
dans nos gènes. J'ai l'impression qu'on est un peu moins formaté, je dirais. Tu vois, on fait vraiment un peu ce qu'on veut, tout en étant généreux, on fait moins l'effort de jouer le jeu, tu vois, de ce que Robin appelle l'entertainment, de faire les mecs qui chauffent tout. Pour nous, c'est vraiment la musique avant tout.
Clap your hands!
C'est vrai que peut-être que dans une situation où tu joues devant. Enfin, une grosse proportion de gens qui te connaissent pas, ça met pas un peu plus de temps, tu vois, mais au bout d'un moment, de toute façon, on a l'impression que ça prend la plupart du temps. Puis à la fin, comme on t'a dit avant, ça, on a fini dans le public, c'était hyper marrant, quoi.
Donc
c'était cool, ouais.
D'accord. Alors on va revenir un peu au début, hein, la musique Cajun, là, vous l'avez découvert comment, ça s'est passé comment?
Par hasard,
Par hasard.
Un heureux hasard, ça a changé nos vies. En fait, on était fans comme beaucoup de gens de blues, on faisait de la vieille, on faisait des chants de marins de Bretagne, on essayait un petit peu de faire de la musique irlandaise, on aimait bien le folk. Et voilà. Bah,
tout ça est pas dans votre, non, dans en fait, votre truc on, de presse là.
Ah, non, parce
qu'on voit Gun Club, Dr. John, Velvet Underground.
Bah, tout en aimant ces trucs là, à l'époque, on jouait un peu dans des bistrots à refaire le monde tous les soirs quand on avait 18 ans. Et puis on aimait bien plein de musique folk qui était accessible beaucoup plus. Et un jour, on est tombé par hasard sur la musique Cajun. Vraiment un disque, un groupe de passage des Anglais et Dante qui faisait ça. Puis ça nous a complètement bouleversé parce qu'on était là, mais c'est quoi cette espèce de blues super joyeux, en même temps complètement décadent, dont on comprend un peu le quart des paroles parce que le reste c'est une espèce de créole de vieux français, on comprend rien, et ça nous a vraiment bouleversé. Puis en fait ça a ouvert une porte qu'on n'a jamais refermée, on s'est plongé dedans, on a acheté plein de vieux vinyles, on a essayé vraiment de creuser. Puis en fait pour nous c'est plus puissant que toute la musique qu'on a écoutée jusqu'alors, tu vois.
Ouais, et même si tu dis qu'on comprenait pas les paroles, il y avait quand même ce germe francophone.
Ben ouais,
tout d'un coup,
ouais.
Alors tu parles de Gun Club Velvet Underground, mais nous, ce qui nous a beaucoup touché, c'est que d'un coup, il y avait du vrai fucking rock'n'roll en français. Même si c'était pas exactement le même français que nous. Nous, on connaît, en français, t'as la chanson française. Après, t'as eu quelques Noirs Désirs ou des choses comme ça. Mais d'un coup, pouvoir se dire, tiens, le rock'n'roll, il est possible aussi en français.
Il y a des racines rock'n'roll en français.
Des véritables, ouais. Et ouais. Quand on va maintenant, on va jouer en Angleterre et les mecs ils se marrent, ils disent mais putain, mais bien sûr, il faut chanter en français. Ouais. Qu'est-ce qu'ils foutent les Français à vouloir toujours chanter en anglais? Tu vois, un mec à Londres, quand il entend un Parisien chanter en anglais, il sait très bien que c'est pas sa langue natale. Il sait très bien qu'il peut pas exprimer les mêmes choses dans sa langue natale que dans une langue qu'il apprend. Donc pour nous, ça a été un grand pas aussi, c'est-à-dire yes, bah on chante en français, quoi, même si c'est en français un peu.
Il y a quand même un petit peu d'anglais.
Eux là-bas ils le font avec facilité, ils ont grandi avec, ouais, comme ça. Dit souvent Cyril, tout d'un coup les voitures sont arrivées, ouais. Ils n'avaient pas de mot pour voiture en français, ils étaient en Louisiane, donc ils ont pris le mot américain, ils ont commencé à dire car, ou et ils disent ouais, viens dans mon car, c'est devenu le chat, c'est assez beau, donc ça donnait un français assez préservé en fait.
D'accord.
Comme les Québécois, un peu, tu vois.
Comme les Québécois.
Ils ont plein d'expressions super charmantes. Et puis, c'est une espèce de créole. Donc, en fait, on aime bien cette langue parce qu'en fait, avec, ils ont peu de mots, mais ça exprime vachement.
D'accord.
Tu vois, beaucoup plus que le français diplomatique, tortueux, la langue de Molière, etc. Et c'est assez pratique. On a du bol. On adore cette langue et d'utiliser ces espèces de mots pour, tu vois, ça nous a facilité la vie. Puis mélanger de l'anglais, de ce vieux français, un peu de français, d'en faire un peu notre langue, ça, on a adoré faire ça, tu vois, une espèce de jeu.
Arnaud, par exemple, qui est un de nos héros, ben lui, il a totalement inventé sa manière de chanter. Ouais. Il a un accent, il a pris un truc. Il, quand tu l'écoutes, tu sais plus si c'est du français, de l'anglais, il se balade comme il veut dans son propre langage.
Même Gainsbourg à l'époque, il jouait un peu avec l'anglais.
Donc on trouve ça hyper bien. On se dit que ça, c'est une manière aussi de s'inventer un petit peu sa manière de chanter sans que ce soit trop théâtral.
Les dialectes que vous chantez, c'est des dialectes suisses ou des dialectes de Louisiane?
Non, alors c'est marrant parce qu'on était en avril en Louisiane avec Mama Rosine. C'était un peu la première fois qu'on faisait des concerts. Et les mecs, ils étaient là, on sait pas ce que vous êtes. On sait, parce que tu vois, quand on tourne en Europe, on dit ouais, Mama Rosine, c'est un mélange de cajun et de rock'n'roll. Mais là-bas, pour eux, on a bifurqué tellement loin de leur musique originale qu'ils étaient là, c'est pas de la musique cajun, c'est pas ce que c'est, mais on adore. Et puis on est fiers parce que vous utilisez quand même, on sent que c'est à l'origine, c'est nous, mais c'est plus du tout nous. Et puis même les paroles, on comprend rien à ce que vous chantez. Donc on était là vraiment, en fait, on a opéré un tel tournant que tu vois, c'est bizarre. On est entre plein de trucs, personne comprend vraiment, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on. Il y a quand même une espèce de truc, tu vois, qu'on peut piger à propos de nous.
D'accord. On va écouter une chanson en bilingue, Casse mes objets, You broke my stuff.
Ouais.
On écoute ça tout de suite et tout de suite on en parle. We'll be right back. Casse mes objets, ça c'est extrait de l'album produit par John Spencer, album qui s'appelle Bye Bye Bayou, et ben qui est disponible dans toutes vos boutiques dans le monde entier maintenant, j'imagine, si c'est John Spencer qui produit.
C'est pas si simple en fait. John Spencer, il a pas non plus la main mise. Il reste un type très underground, même si tout le monde le connaît quand même, ouais, dans le milieu rock'n'roll. C'est pas parce qu'on a sorti un disque produit par John Spencer qu'on est dans tous les magasins. Mais en Belgique, on a distribué. Ça, on peut te le promettre.
Et en Louisiane, je suis sûr que vous avez un plan.
Mais en fait, c'est assez rigolo parce qu'on vient de sortir la version américaine, enfin nord-américaine, du disque. Donc on a fait une autre pochette. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui nous disait, mais vous êtes trop marrants les Mama Rosine. Vous êtes vraiment, vous faites comme les groupes des années 60, quoi. C'était les Beatles qui faisaient, enfin tous ces groupes des années 60, ils avaient une version de leur disque par pays. Et puis pour plaire à chaque public de chaque pays, t'as même l'ordre des morceaux qui changeait.
Quelle tactique marketing!
Et c'était rigolo parce que tu vois, nous on a changé la pochette parce qu'en fait on avait plusieurs pochettes, ça nous plaisait. On a changé l'ordre des morceaux, mais parce qu'on avait envie de changer, mais on s'est pas posé de questions. Puis il était là, mais c'est incroyable, la personne qui a fait ça depuis les années 60, les gars, vous faites fort. Et en fait, on n'avait pas du tout pensé à ça. Mais donc, ouais, on a deux pochettes, deux disques. Mais ça a sorti il y a un mois aux États-Unis.
Et donc,
sérieusement.
Ouais, donc c'est sorti là-bas, vous avez fait des concerts là-bas. Ouais. Alors, on parlait hors antenne de cette tradition cajun. Tu me disais, elle se maintient, mais plus ou moins, elle n'est pas très solide quand même.
Non, mais tu vois, c'est un secret pour personne, quoi. L'impérialisme américain, l'histoire des Indiens. Même chez eux, ils ont réussi à essayer d'étouffer toutes les cultures un peu différentes. Ouais. Donc simplement, depuis le début du XXe siècle, ils ont essayé de faire en sorte que tous les francophones de Louisiane finissent par parler anglais. Donc c'était presque interdit dans les écoles, etc. Alors qu'ils ont un français qui est super beau. Donc ils ont dû se battre pour subsister. Et c'est vrai qu'il y a quelques petites poches qui existent. Ces poches, on les a rencontrées, on allait jouer là-bas. Elle réémerge un petit peu ces temps, donc pour eux c'était énorme de se dire il y a des gars qui viennent de Suisse, un pays qui la plupart du temps ils savent mal le situer.
Et ils savent qu'il y a des banques. Ça,
ouais,
c'est
évidemment
sûr.
Il y a quelques clichés de base, mais même pas forcément. Tu te dis là-bas c'est tellement reculé que des fois ils savent même pas forcément cette histoire de leur nazi, mais ils étaient tout fiers.
Leur nazi, moi j'y vais pas jusque là, mais les banques.
Non, j'ai fait exprès.
C'est un traumatisme national pour les gens de gauche comme nous.
Mais ouais.
Mais non, voilà, simplement, ils étaient tout fiers de se dire waouh, notre culture elle existe outre-Atlantique. Et puis c'est eux qui débarquent avec ça. C'était super bien, ça a été une bombe de jouer là-bas.
Ouais, c'était génial. Donc les gens dansaient, retrouvaient un petit peu.
Et puis ils étaient surtout curieux, ils venaient nous parler après, ils ne comprenaient pas. Ils nous envoient encore des mails aujourd'hui. Mince, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Revenez. C'était vraiment puissant.
Vous n'avez pas fait monter sur scène des musiciens locaux?
Si, enfin non, on connaissait 2-3 personnes qui étaient venues en Europe. Ouais. Des musiciens locaux. Ouais. Puis en fait, j'ai l'impression que c'est pas aussi mort qu'on le pense. Lafayette, c'est effervescent, il y a énormément de groupes. Après, c'est une espèce de petite famille, ils ont 15 groupes, mais ça, c'est quand même les 30 mêmes musiciens. Tu vois.
Ouais, c'est ça, quoi.
Mais disons
qu'il
y a quand même énormément de touristes qui viennent, comme pour Austin, au Texas, il y a Austin, etc. C'est une espèce de QG, de là où on fait la fête, où il y a de la musique, ça représente ça. Et là-bas, c'est vraiment vivant. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est par contre, ça se renouvelle pas, tu vois. Ils font la même musique où ils essaient de faire, mais ils savent pas trop où aller, tu vois. Puis j'ai l'impression que c'est en ça on a eu trop le plaisir de se rendre compte que en fait on apportait un truc qu'ils connaissaient pas, tu vois, genre mais vous avez apporté tellement de rock and roll à ce truc là puis eux-mêmes ils pigeaient pas très bien ce qu'on était, mais ils adoraient. Oui, en ça
c'est marrant parce que moi je connaissais pas trop ce genre de musique, puis j'ai été voir un peu sur internet et en fait j'ai retrouvé en fait mais donc j'arrive par vous en fait vers la musique cajun et je retrouve cette énergie qui est effectivement assez évidemment rock'n'roll, quoi.
Bah, ça dépend des périodes. Si t'écoutes les disques ou les musiciens des années 30 à 60, il y a ce truc-là, c'est génial, c'est rugueux, ça braille dans tous les sens, c'est trop marrant. Et nous, on a un peu un problème avec ce que c'est devenu aujourd'hui, la production aujourd'hui, enfin des 20 dernières années,
qui est un peu plus
super
country,
propre. Non, mais ils sont devenus tellement bons. Que,
tu pourrais dire ça de tous les styles de musique, tu vois, tout c'est aseptisé, la country aussi. Les radios se sont formatées, donc toute la musique, elle commence à se
Il n'y a plus le danger qu'il y a au départ, tu vois, les mecs. mecs, ouais. À l'avant, ils se posaient pas de questions, puis ils gueulaient dans les micros, puis ça donne un disque, et puis ouais. ça sature de partout, temps, et c'est ouais. génial. Ouais. Et nous, c'est ça qu'on aime dans leur culture. Et c'est vrai que ce qui se fait aujourd'hui, en tout cas sur disque, ils osent pas trop. Tu vois, ils jouent hyper bien, mais et puis en concert, c'est par contre, c'est super cool. Mais t'as envie de leur dire, mais faites ce que vous faites sur scène, sur disque, c'est mieux.
Ouais, donc ça s'exporte pas du tout, malheureusement. Tu vois très rarement, à part toute une espèce de caste de gens en Europe qui font des festivals, Cajun, vous avez Déco. Alors là, tous les groupes, ils viennent jouer, ils font leur petit festival Cajun en Suède.
C'est très hermétique.
Mais il n'y a, ouais, pas d'ouverture sur le reste. Alors que nous, on a vu des groupes en live à Lafayette, ouais. Ici, mais ils déchireraient tout. Ils ouais. sont trop marrants, trop beaux, ils sont trop forts.
Ouais, ouais,
ils
ouais.
font une musique qui est trop prenante. Mais c'est des mecs qui sont coincés à Lafayette. Ils nous disent, mince, on aimerait venir en Europe et arrêter d'aller jouer pour des sexagénaires dans les festivals de Cajun à Oslo. Quoi.
Ouais, c'est ça. Quoi.
Esperanza, alors... pensez-y.
On a des noms à vous donner.
Ouais. Il faudra en parler au programmateur.
On en parlera.
Ouais. Alors, tu m'as fait perdre le fil de mon truc, là, maintenant. Ah oui, voilà, ce que je voulais dire... C'est que j'espère que vous allez donner envie à tous les gens qui font la musique folk ici en Europe d'électrifier un petit peu le truc, parce que les folkeux, ils ont vraiment très peur de ça. Ils restent dans ce petit truc hermétique. J'espère que ça va allumer une mèche.
Ouais, en même temps, moi je suis assez... Moi j'aime bien les mecs qui débarquent tout seuls avec une guitare acoustique et puis qui chantent leurs chansons avec un petit mec à côté qui fait un peu de banjo.
D'accord.
Enfin, je trouve qu'il y a quand même une scène folk qui est bonne.
Tu veux me contredire?
Non, mais je veux pas à tout prix que ces gens-là deviennent rock'n'roll.
Non,
tu
non,
vois,
d'accord. D'accord.
Mais par contre, tu parles des folk-eux, quoi. Ouais. Le truc folk où les mecs, c'est revivaliste, et ça manque un petit peu.
En fait, voilà, c'est ça. Ouais. Ils restent coincés dans une époque, ouais. Et il n'y a pas vraiment de modernité. Ouais. Et c'est dommage parce que, je dirais, en Europe, notre culture qu'on a à la base, bon, c'est tout à fait coupé parce qu'elle n'existe plus vraiment. Et vous apportez ce lien entre le folk et...
Ah bah je te remercie de dire ça, c'est cool, quoi. C'est cool de dire
merci,
ça.
Merci de dire ça de nous.
Ouais, merci.
On s'y attendait pas.
D'accord, ben écoutez, on vous remercie d'être venu sur scène en studio. Et alors on va avoir la double dose, puisque ce soir on retransmet le concert de Mama Rosine à Radio Esperanza.
Yeah.
Si vous êtes dans la camionnette branchée sur le 106.2, vous pouvez voir toutes les conneries que vous avez fait pendant le concert.
Ouais. 106.2.
106.2, ouais.
Bon, à partir de quelle heure?
À partir de 21h, okay, mais dans un...
C'est une très bonne raison.
Dans un champ de 30 km, hein, donc passer 30 km.
Ah merde.
Je suis pas sûr que
on va s'arranger pour crever
en fait,
un pneu.
On aimerait graver un petit CD de notre live.
Ouais, écoute, on va demander si on peut mettre ça sur une clé USB. Un CD, je suis pas sûr qu'on pourra le faire, mais une clé USB, je pense.
Ouais, merci beaucoup.
Parfait. Voilà. Merci beaucoup.
Merci
à vous.
Festival. Amusez-vous.
Bon retour.